Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygène. Apple est peut-être obligé d'intégrer un port USB-C dans l'iPhone. Ça ne veut pas dire que le constructeur ne peut pas en profiter au passage pour vendre des tas d'adaptateurs secteur. On s'en reparle dans le Flash Info. Quand le sage montre du doigt, Samsung prend la lune en photo. Bon, ok, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une manière comme une autre d'introduire la deuxième partie de l'émission. Avec Stéphane, on va en effet vous parler de cette polémique autour des photos de la lune prises avec des smartphones de Samsung. Des photos trop belles pour être vraies, mais est-ce que c'est si grave? Nous sommes le mercredi 22 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Apple peut râler contre l'Union Européenne qui lui impose un port USB-C dans l'iPhone. Il n'empêche que le constructeur va en tirer profit. Ne serait-ce qu'en vendant des tas et des tas de nouveaux adaptateurs secteur. D'après Ming-Chi Kuo, qui se plante rarement, la production de chargeurs USB-C pour Apple devrait augmenter de 120% juste avant le lancement de l'iPhone 15. Autrement dit, Apple s'apprête bel et bien à lancer un iPhone 15 avec un port USB-C, et le constructeur a bien l'intention de vendre aussi de nouveaux adaptateurs à tous les clients qui se servait encore de vieux chargeurs USB-A. Et le petit business d'Apple autour de l'USB-C est loin de s'en tenir à un adaptateur. Le programme Made for iPhone devrait ainsi basculer lui aussi dans l'ère de l'USB-C. Ce programme permet aux fabricants de faire certifier le bon fonctionnement de leurs accessoires avec les iPhones et les iPads en Lightning. En y ajoutant l'USB-C, Apple toucherait donc une commission sur les nouveaux accessoires certifiés, et tout particulièrement pour les chargeurs secteur qui s'annoncent comme un marché très lucratif. Finalement, Apple a fait sa mauvaise tête quand l'Europe a tapé du poing sur la table, mais ça va aussi et surtout lui rapporter un max. On se plaint beaucoup des prix de l'iPhone. Bon, en tout cas, moi, je m'en plains souvent, mais Apple sait parfaitement ce qu'elle fait. La dernière analyse de Counterpoint montre que le haut de gamme se porte bien et même très très bien. Les ventes de smartphones vendus à 600$ et plus représentent 55% du total du chiffre d'affaires des smartphones l'an dernier. Et sur le créneau des appareils à plus de 1000$, les revenus ont augmenté de 38% entre 2021 et 2022. Alors évidemment, en volume, c'est-à-dire en nombre de smartphones vendus, les modèles premium sont loin de représenter la majorité des ventes. Ils ne pèsent que 21% du total en fait, mais ces segments représentent les plus fortes marges, et c'est justement le marché visé par Apple. Sur le segment du premium à plus de 600$, Apple domine de très loin avec 75% du marché, et le constructeur se paye même le luxe d'augmenter sa part de 6% par rapport à 2021. Un résultat qui aurait pu être encore meilleur si la production des iPhone 14 Pro avait été au rendez-vous. Tout cela n'est pas très encourageant pour le porte-monnaie, car en voyant ces chiffres, Apple va sans doute pouvoir se dire qu'elle peut vendre des iPhones encore plus chers. Si Apple est le roi des prix premium, dans les segments de prix abordables, c'est plus difficile. Apple ne donne aucun chiffre de vente pour les iPhone 14 et iPhone 14 Plus, mais le lancement d'un nouveau coloris jaune uniquement pour ces deux modèles montre que les ventes ne sont pas au niveau espéré par le constructeur. Malgré tout, il semble que l'iPhone 14 Plus soit un peu plus populaire que l'iPhone 13 mini. Les deux smartphones sont très différents parce que, évidemment, il y a d'un côté un écran de 5,4 pouces et de l'autre, un écran de 6,7 pouces. Mais la comparaison reste intéressante parce qu'il s'agit de modèles inédits de par leur taille. D'après les spécialistes de DSCC, la livraison d'écran pour le 14 Plus aurait été quasiment 60% plus élevée que pour les écrans du 13 mini durant la période du lancement. Et cette production d'écran de 6,7 pouces aurait aussi légèrement augmenté à partir du mois de février. Certainement parce que Apple a multiplié les promotions qui rendent le 14 Plus un peu plus intéressant. Il y a donc du mieux pour ce grand modèle, mais il n'en reste pas moins que ce sont surtout les iPhone Pro et Pro Max qui se vendent le mieux. Microsoft est allé à fond de train dans l'intelligence artificielle en intégrant GPT dans Bing et dans tous ses logiciels, ou presque. Google a choisi une voie beaucoup plus prudente pour son robot Bard. Après une présentation il y a quelques semaines, Bard est désormais proposé sur liste d'attente, uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni et uniquement en anglais. Ce nouveau bot utilise les possibilités du modèle de langage maison, c'est-à-dire Lambda. Ça lui permet de répondre à toutes sortes de questions, mais attention, Google prévient bien que Bard peut se planter ou affirmer des faussetés. Google a aussi tenu à souligner que Bard n'était pas un moteur de recherche. Ce qui est une réponse à Microsoft qui veut justement se positionner sur ce terrain avec l'intégration de GPT dans Bing. Bard est plutôt vendu comme un outil pour accélérer la productivité ou allumer la créativité. Pour chaque question posée, le bot propose 3 brouillons de réponses et d'après les premiers tests, il se montre rapide à afficher des propositions. Pour tout ce qui est recherche pure et dure, un bouton Google reste présent sous chaque réponse de Bard. Est-ce qu'on peut faire confiance aux photos prises avec son smartphone ? La question mérite d'être posée, alors que Samsung a été pris dans une polémique lunaire. Les photos de la Lune qu'on peut faire avec un smartphone Galaxy sont particulièrement détaillées, quand bien même le cliché d'origine n'est pas terrible. Avec Stéphane, on va revenir sur cette controverse qui concerne en fait tous les constructeurs de smartphones. Salut Stéphane !
Salut Mickaël, salut à tous !
Alors d'abord, pourquoi est-ce que je voudrais prendre la Lune en photo ?
Parce que ton smartphone en est capable.
Oui.
Non mais c'est vrai que Samsung s'est pris de passion pour l'astrophotographie ces dernières années.
Ouais.
Alors est-ce que c'est parce que beaucoup de personnes veulent prendre des photos des étoiles ? Je suis pas sûr. En fait, je pense qu'il faut comprendre que maintenant que tous les smartphones font de belles photos de jour et aussi de nuit, les fabricants doivent trouver autre chose pour se démarquer. Et Samsung a fait de l'astrophotographie un argument en marketing depuis le S20 Ultra. Alors ça lui sert de démonstration technologique, parce que l'astrophotographie, mine de rien, ça demande habituellement du matériel spécialisé.
Oui.
Et puis les photos peuvent être assez spectaculaires. Oui. D'ailleurs, dans une pub sortie en 2021, Samsung avait comparé le S21 Ultra à l'iPhone 12 Pro Max.
Ouais.
Alors d'un côté, on voyait une photo super détaillée de la Lune, on voyait même les cratères de l'astre, et de l'autre, tu avais un point tout blanc, tout flou. Et donc c'était vraiment le jour et la nuit, on peut dire, entre les deux. Et puis, photographier la Lune ou les étoiles, c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui, en théorie.
Ouais.
Mais en pratique, c'est un peu plus compliqué. Parce que hier soir, en fait, tout bêtement, je suis sorti pour faire quelques essais avec le S23 Ultra que Samsung nous a prêté pour un test.
Ouais.
Eh bien, j'ai pas pu prendre en photo la Lune, déjà parce qu'elle apparaissait pas dans le ciel, c'est tout bête. Mais aussi, j'ai pas pu prendre en photo les étoiles parce qu'il y a de la pollution lumineuse à Lyon. C'est, malheureusement, voilà, j'ai pas pu pousser le test jusqu'au bout, mais je referai des essais.
Alors là, ce qui a posé problème ces derniers jours, c'est que même quand on prend une photo floue de la Lune, sur le cliché pris par le Galaxy, elle ressort avec plein de détails. Comment est-ce que c'est possible, ça ?
Alors la polémique, elle date pas d'hier, donc en fait dès la sortie du S21 Ultra en 2021, des journalistes ont cherché à comprendre comment un smartphone pouvait faire mieux qu'un réflexe avec un super téléobjectif pour photographier la Lune. Mais c'est vrai que c'est un nouvel essai qui a relancé les débats récemment. Un internaute s'est aperçu qu'en prenant en photo, non pas la Lune directement, mais une photo floue de la Lune, il obtenait une image de la Lune plus nette qu'elle ne l'était à l'origine.
Okay.
Alors donc ça a obligé à Samsung à redonner des explications sur ce mode qui est très spécial. Donc il faut savoir que pour faire une belle photo de la Lune avec un S21, S22 ou S23 Ultra, il faut d'abord que la fonction optimiseur de scène soit activée, mais elle est par défaut. Et puis, en fait, cette fonction sert au smartphone à reconnaître divers éléments comme la Lune. Et puis il faut aussi que le mode super résolution soit en route. Donc pour cela, il faut pousser le zoom numérique à 25 fois ou plus.
D'accord.
Et donc quand ces conditions sont réunies et que la Lune est reconnue, le smartphone réalise plusieurs ajustements photographiques pour la photographier du mieux possible. Et puis ce qui fait toute la magie de l'opération de Samsung, c'est une technique d'intelligence artificielle qui ajoute des détails sur la photo prise.
Donc Samsung ne remplace pas la Lune par une Lune plus nette, il y a quand même un gros travail d'analyse et d'intelligence artificielle qui est fait.
Oui, c'est ça, à la sortie du S21 Ultra, on se demandait si Samsung ne remplaçait pas la vraie Lune par n'importe quelle Lune trouvée sur le web.
Ouais.
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais, bien sûr.
Donc le fabricant a entraîné un modèle d'intelligence artificielle pour reconnaître toutes les faces de la Lune et leur ajouter des détails. Donc d'ailleurs, s'il y a des nuages devant la Lune la nuit, ça peut gêner la reconnaissance et la Lune ne sera pas optimisée.
Ouais.
Et donc pour le dire autrement, la Lune qu'on a en photo sur le S23 Ultra, elle correspond bien à celle qui est dans le ciel, mais Samsung l'a recréée en quelque sorte en ajoutant des détails.
Est-ce qu'on peut reprocher à Samsung d'enjoliver un peu la réalité alors qu'Apple fait finalement pareil avec tous les traitements photos sur l'iPhone ?
Alors sur l'iPhone, les manipulations ne sont pas aussi spectaculaires, ouais. Mais c'est vrai qu'Apple utilise aussi des algorithmes pour améliorer ses photos. Je pense aux éclairages de portrait qui permettent de simuler des éclairages de studio lorsqu'on prend des portraits. La différence, c'est qu'ils ne sont pas activés par défaut, on les sélectionne manuellement. Mais en fait, c'est une tendance de fond. On voit depuis quelques années que les fabricants exploitent de plus en plus les techniques informatiques pour améliorer leurs photos. Ouais. C'est même devenu une expression. Apple parle de photographie computationnelle ou de photographie informatique. Et donc, globalement, les photos sont améliorées grâce à ces traitements. Mais ces traitements sont aussi responsables de ratés parfois.
Est-ce que tout ça, ça risque pas d'aller trop loin finalement ? Il y a eu une polémique il y a pas longtemps sur Snapchat avec un filtre qui te rendait instantanément beaucoup plus beau. Alors c'est merveilleux, mais malheureusement dans la réalité, ça marche pas comme ça.
Ça dépend les personnes, mais non, mais Snapchat, l'histoire du filtre avec Snapchat, en fait Snapchat est loin d'être le seul à faire ça. Même l'appareil photo par défaut de Samsung comprend une option pour lisser la peau quand tu prends un selfie. Et puis c'est le cas de beaucoup d'autres de fabricants, mais ça pose problème parce que des études ont montré que ça causait des problèmes chez des utilisateurs, en particulier chez les ados qui finissent par vouloir ressembler à leur reflet photoshopé. Et puis sans aller jusque là, si la photographie informatisée permet d'améliorer les photos, donc comme je le disais un petit peu avant, elle introduit aussi des erreurs. Dans l'exemple de Samsung, en fait, le S23 Ultra, il n'aurait pas dû optimiser ce qui n'était qu'une image de la Lune et pas la vraie Lune. D'ailleurs, Samsung l'a reconnu en déclarant qu'ils allaient corriger ça. Et puis, plus globalement, les photos retouchées, ça n'a rien de nouveau. Mais la différence, c'est qu'avant, on effectuait nous-mêmes les retouches.
Oui.
On le faisait de manière consciente. Alors que maintenant, c'est la machine qui s'occupe de tout. Donc on peut très bien imaginer demain un optimiseur de scène pour la Tour Eiffel. Par exemple, tu vas en voyage à Paris, tu prends une photo de toi devant la Tour Eiffel. Manque de chance, la Tour Eiffel est en travaux. Bah, pas de problème, l'optimiseur, tu vois, enlève les échafaudages indésirables. Mais là, on s'écarte de la réalité. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut. À mon avis, ce qui est important, c'est qu'on ait toujours le choix entre une photo optimisée et une photo naturelle. Donc dans le cas de Samsung, on peut désactiver l'optimiseur de scène. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas une lune aussi détaillée que si tu avais le télescope James Webb dans ta poche. Mais chez Apple, maintenant, on ne peut plus désactiver le Smart HDR.
Et ça
peut être un problème parfois. Moi, ça m'a déjà gâché quelques photos. Parce que le Smart HDR, donc, il combine, pour résumer, plusieurs photos en une seule. Des fois, il se croit plus intelligent qu'il ne l'est vraiment. Et je pense que pour les photos optimisées, ce qui serait intéressant d'avoir, c'est dans les métadonnées, le détail des traitements réalisés par le smartphone et la possibilité de revenir en arrière.
Ouais.
Ça permettrait vraiment de voir qu'est-ce qui a été photoshopé dès la prise de vue et quelle est la photo réelle, on va dire, que tu avais devant les yeux.
Eh bien, merci pour cet éclairage sur la photographie computationnelle. Il va falloir s'y habituer, si je comprends bien, parce que les constructeurs n'ont pas terminé d'améliorer nos photos, qu'on le veuille ou non. Salut Stéphane.
Salut Mickaël.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.